Donc nous sommes à la veille de la Toussaint et de nombreux pèlerins s'apprêtent à venir vénérer les reliques qui sont exposées chaque année pour cette fête de la Toussaint dans la petite chapelle du château de Wittenberg et obtenir ainsi les indulgences qui sont accordées à cette occasion. Or, en cette veille de Toussaint, le 31 octobre 1517, un moine du couvent des Augustins d'Erfurt, Martin Luther, placarde sur la porte de la chapelle 95 thèses qui s'attaquent notamment à la doctrine des indulgences. Ces thèses placardées sur la porte de la chapelle vont bientôt être imprimées et se répandre dans toute l'Allemagne, provoquant pour ou contre de vives réactions. C'est l'acte qui marque le début de la révolte de Luther, révolte qui conduira à sa séparation d'avec l'Église. Dans les mois qui suivent, Luther développe une doctrine qui s'écarte en plusieurs points de la foi catholique. En juillet 1519, il fait une nouvelle déclaration pour nier l'infaillibilité des conciles. Et après des tentatives de discussion entre Rome et le moine allemand, le pape Léon X ordonne à Luther de se rétracter. Mais Luther brûle en public la lettre du pape en y joignant le code de droit canonique et il rompt ainsi officiellement avec l'Église et il est excommunié le 3 janvier 1521. Ces événements étaient le prélude à une déchirure terrible pour l'Église dont celle-ci souffre encore aujourd'hui. On avait en 2017 consacré notre forum à ce sujet, donc vous pourrez retrouver dans les actes une histoire plus détaillée. L'objectif de notre exposé est de montrer comment trois docteurs de l'Église ont répondu à la situation d'alors et comment dans ce contexte ils ont œuvré par la raison et par la foi à une véritable réforme de l'Église en mettant à son service à la fois leurs éminentes facultés intellectuelles et une sainteté de vie admirable. Alors Saint Pierre Canisius, d'abord le premier des trois docteurs que nous allons suivre, né aux Pays-Bas le 8 mai 1521, quelques mois donc après l'excommunication de Luther. Le jour de son 22e anniversaire, il entre chez les jésuites, où il suit les cours de Saint-Pierre Favre, l'un des premiers compagnons de Saint-Ignace. Il est ordonné prêtre en 1546, l'année où meurt Luther, et il devient l'année suivante le théologien de l'évêque d'Augsbourg, ce qui lui permet de participer au Concile de Trente. Le Concile de Trente s'est étalé sur presque une vingtaine d'années, de 1545 à 1563. À la demande de Saint Ignace lui-même, il poursuit ses études à partir de 1548 et il obtient son doctorat de théologie. Il est alors envoyé en Allemagne, où la foi catholique semble s'éteindre sous l'influence de la réforme protestante. Benoît XVI note « Le devoir de Pierre Canisius, chargé de revitaliser, de renouveler la foi catholique dans les pays germaniques, était presque impossible. Il n'était possible que par la force de la prière. Il n'était possible qu'à partir du centre, c'est-à-dire d'une profonde amitié personnelle avec Jésus-Christ. Une amitié avec le Christ dans son corps, l'Église, qui doit être nourrie dans l'Eucharistie, sa présence réelle. » Pierre Canisius était un grand érudit. Il fut l'éditeur des œuvres complètes de Saint Cyril d'Alexandrie et de Saint Léon le Grand, des lettres de Saint Jérôme, dont nous avons parlé hier, et des oraisons de Saint Nicolas de Flux. Mais son œuvre principale fut la rédaction de catéchismes. Au beau milieu du Concile de Trente, il rédigea, avec l'encouragement de Saint Ignace de Loyola, trois manuels, qu'il publia en 1555, 1556 et 1557. Le premier, « La somme de la doctrine chrétienne » est adressé aux étudiants. C'est donc un catéchisme bien structuré pour, je dirais, exposer par la raison, avec l'aide de la raison, la foi de l'Église. Il est composé de 222 questions et divisé en 5 parties. La foi, avec le credo, l'espérance avec le Notre Père et le Je vous salue, la charité, avec le décalogue et les commandements de l'Église, et puis les deux dernières parties sont consacrées au sacrement et à la justice chrétienne, partie dans laquelle il évoque les vertus, les dons du Saint-Esprit, les béatitudes et les conseils évangéliques. On voit qu'on a un petit peu l'ancêtre en termes de structure de ce qu'on a aujourd'hui dans le catéchisme de l'Église catholique. Ces grandes articulations, ce plan en fait, se retrouvera dans ces deux autres ouvrages. Cette somme comprend 2000 références à l'Écriture et 1200 au Père de l'Église. Donc c'est un travail, et on n'avait pas Internet ou Ictus pour retrouver les références. Hein, donc ça montre l'érudition de Saint-Pierre Canisius. L'année suivante, Pierre Canisius publie le Catechismus Minimus, le tout petit catéchisme, qui lui aussi est en latin et qui est une version très simplifiée de la somme qui est adressée aux enfants, avec 59 questions selon le même plan. Et puis l'année suivante, il publie un troisième ouvrage, le Catechismus Minor, donc catéchisme plus court, plus petit, qui est une version intermédiaire entre la somme et le tout petit catéchisme, et qui est le chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre par la pédagogie et la précision de ces 124 questions qui suivent toujours le plan d'origine. Très rapidement traduit en français, ce catéchisme aura une diffusion extraordinaire. Dans les œuvres de Pierre Canisius, si la doctrine est bien présente dans ses enjeux théologiques du moment, qui est de répondre à Luther, qui s'attaquait à des points importants de la foi de l'Église, on ne trouve pas cependant l'esprit de controverse qui marque la plupart des manuels qui sont publiés alors. Pierre Canisius utilise un ton serein et peu polémique en se contentant d'une présentation objective de la foi catholique. D'autre part, son adaptation au niveau de chacun, par cette triple présentation, dans ces trois manuels, a donné à cette œuvre un grand succès et une grande influence, au point qu'en Allemagne, à l'époque, on dira, pour dire « sais-tu ton catéchisme ?», on dira « sais-tu ton Canisius ?». Un siècle et demi plus tard, on pourra compter 400 éditions de ces catéchismes. C'est donc essentiellement pour son œuvre catéchétique que Pierre Canisius sera déclaré docteur de l'Église en 1925. Il est d'ailleurs mentionné dans le catéchisme de l'Église catholique parmi les théologiens qui ont été de grands catéchistes. À l'heure où la catéchèse est parfois encore insuffisante et où beaucoup de jeunes notamment aspirent à un enseignement solide et étayé, Saint-Pierre Canisius peut nous aider à vivre ce que Jean-Paul II disait dans son encyclique « Foi et raison ». La foi, privée de la raison, a mis l'accent sur le sentiment et sur l'expérience, en courant le risque de ne plus être une proposition universelle. Il est illusoire de penser que la foi, face à une raison faible, puisse avoir une force plus grande. Au contraire, elle tombe dans le grand danger d'être réduite à un mythe ou à une superstition. Saint Jean d'Avila, maintenant, donc, est un Espagnol. Alors, Avila n'est pas tout à fait le carrefour de saints que fut Turin au XIXe siècle, mais la ville espagnole compte tout de même, en ce XVIe siècle, de belles figures de sainteté, avec saint Jean de la Croix et sainte Thérèse. Moins connue est celle de saint Jean d'Avila, qui a pourtant rencontré tant de saints de son époque et qui a exercé sur eux, on va le voir, une belle influence. Il est né en 1499 dans une famille noble de Castille, près de Tolède, de parents qui étaient des juifs convertis. très brillant. Alors c'est un fait qu'on le dit de tous depuis hier, hein. Bon, c'est pas pour rien qu'ils sont docteurs de l'Église, donc bon. Il commença des études de droit à Salamanque, mais passa rapidement à l'université d'Alcala, où il fut diplômé en théologie et en philosophie. Il perd ses parents au cours de ses études, et ordonné prêtre en 1525, il célèbre sa première messe dans l'église où étaient enterrés ses parents, et il distribue là toute sa part d'héritage aux pauvres. Il projetait de partir pour le Mexique, pour y être missionnaire, mais devant son zèle et ses talents, l'évêque de Séville le charge d'organiser des missions populaires en Andalousie pour raviver la foi. Et il lui dit « Vos Indes sont ici à Séville ». C'est la remarque à laquelle aura droit aussi Saint Jean-François Régis, qui en dira « Votre Canada, ce sera le Vivarais ». L'influence de sa prédication fut immense. Il fut l'ami de Saint Ignace de Loyola, avec qui il eut une correspondance soutenue, et il favorisa le développement et la diffusion des jésuites en Espagne, lui-même n'étant pas jésuite. Il a soutenu Sainte Thérèse d'Avila dans son œuvre de réforme de l'ordre des Carmélites. Il est à l'origine de la conversion de Saint Jean de Dieu, qui l'encouragea dans la fondation de l'ordre hospitalier, qu'on appelle maintenant des frères de Saint Jean de Dieu. Et c'est aussi l'une de ses homélies prononcées pour les funérailles de l'épouse de Charles Quint, l'impératrice reine Isabelle, qui a provoqué la conversion de Saint François Borgia, qui abandonna alors la charge de vice-roi de Catalogne pour devenir, pour entrer dans la compagnie de Jésus. Et puis, Jean d'Avila jouera un rôle important au Concile de Trente, quoique sans y être présent. Il enverra des mémoires au père du Concile et sera consulté par de nombreux évêques au sujet des décisions à prendre. Il aura ensuite une influence décisive pour la mise en œuvre du Concile de Trente, et en particulier pour la mise en œuvre des séminaires en Espagne. Il fut accusé de rigorisme, ce qui arrive souvent dans les temps où il y a plutôt du laxisme, et malgré l'extrême clairvoyance de sa théologie, il fut faussement accusé d'hérésie auprès de l'Inquisition. Il passa donc un peu plus d'un an en prison, et pendant cette année, il continua à écrire, et lorsque son innocence fut reconnue, il remercia ses juges d'avoir voulu le perdre et de lui avoir fait partager ainsi la vie du crucifié. Il dira « J'ai appris bien plus durant ma captivité que pendant toutes mes années d'études ». Canonisé par Paul VI en 1970, il a été déclaré docteur de l'Église le 7 octobre 2012 par Benoît XVI. Donc Saint Jean d'Avila a vécu toute la période de la réforme protestante. Lui aussi a beaucoup contribué à exposer avec clarté la doctrine catholique pour la rendre accessible à tous. Benoît XVI disait « La déclaration de docteur de l'Église d'un saint présuppose la reconnaissance d'un charisme de sagesse conféré par le Saint-Esprit pour le bien de l'Église et démontré par l'influence positive d'un enseignement sur les fidèles, ce qui est le cas dans la personne et l'œuvre du Saint Maître d'Avila. De grands saints et des pécheurs mémorables, des riches et des pauvres, des savants et des ignorants, ont trouvé chez lui des lumières et une meilleure compréhension du message chrétien. » Saint Jean d'Avila rédigea en 1554, donc un an avant Saint Pierre Canisius en Allemagne, un catéchisme, une synthèse pédagogique qui était à la fois destinée aux enfants et aux adultes pour présenter de manière synthétique les contenus de la foi. Et on voit que c'est quelque chose justement qui avait manqué avant Luther, et le développement ensuite des catéchismes a permis d'enraciner les catholiques dans leur foi en leur faisant beaucoup mieux comprendre ce qu'ils croyaient. En 1561, dans un mémoire adressé au Concile de Trente, Jean d'Avila écrivait ces mots qui n'ont hélas pas perdu grand-chose de leur actualité. Une des causes et non mineure pour laquelle beaucoup de chrétiens ont perdu la foi c'est la faiblesse de l'enseignement qu'ils ont reçu. Ils ont été si peu instruits de la foi, si peu affermis en elle, si peu captivés par ses mystères, que la première erreur venue a pu les persuader facilement comme des gens sans attache solide avec la vérité. C'est très impressionnant cette citation parce que... Bon. Point de suspension. Que son exemple nous pousse à enseigner la beauté de la foi et à en vivre pour avoir et pour transmettre de solides attaches avec la vérité qui est Jésus lui-même. Et puis pour finir avec saint Jean d'Avila, voici ce qu'il écrivait dans son ouvrage de spiritualité, « Écoute ma fille ». Ces conseils qu'on peut aussi appliquer aujourd'hui et qui peuvent nous aider à nous diriger aujourd'hui. Donc je le cite, « Fermez donc l'oreille à tout ce que l'on pourrait vous dire de contraire à la doctrine de l'Église et demeurez ferme dans la créance, la foi, qu'elle professe depuis tant de siècles et dans laquelle un si grand nombre de personnes ont trouvé le salut. Car quelle folie peut être plus grande que de quitter un chemin par lequel tant de personnes si sages et si saintes ont marché et sont arrivées au ciel, pour en prendre un qui n'a pour guide que des novateurs présomptueux et superbes, qui, n'ayant nulle autorité et ne suivant que leur propre sens, veulent qu'on les croie sur leurs paroles et de les préférer à cette grande multitude de saints signalés par leur sagesse toute divine, par la pureté de leur vie et par un si grand nombre de miracles. » Après l'Allemagne et l'Espagne, l'Italie a eu aussi son docteur après le Concile de Trente pour mettre en œuvre ce qu'on appelle la contre-réforme ou la réforme catholique. Il s'agit de saint Laurent de Brindisi. C'est au milieu du XVIe siècle que naît Jules César. Alors, je ne suis pas à côté de la plaque, c'est son nom de baptême. Dommage qu'il ait changé après, on aurait eu un saint Jules César. Donc il naît en 1559 à Brindisi, ville au bord de la mer, située dans le talon de la botte italienne. Le concile de Trente était donc sur le point de s'achever au moment de sa naissance. Quelques années plus tard, après la mort de son père, il s'installe avec sa mère à Venise, où il a un oncle prêtre. Et là, il rencontre les Capucins et entre dans leur ordre, où il prend le nom de Laurent. Benoît XVI écrit « Dès l'époque de ses études ecclésiastiques, il révéla les éminentes qualités intellectuelles dont il était doté. Il est donc envoyé à Padoue pour y étudier. » Et il y apprend les langues avec une facilité propre à susciter la jalousie. Il parle couramment l'italien, l'allemand et le français, mais aussi le latin, le grec, l'hébreu et le syriaque. Cette connaissance des langues anciennes lui permet de discuter avec les protestants et avec les juifs sur justement les textes de la parole de Dieu qu'il connaît pratiquement par cœur. Il connaît presque par cœur la Bible, doué qu'il est d'une mémoire prodigieuse. Benoît XVI dit de lui, prédicateur efficace, il connaissait de façon si profonde non seulement la Bible, mais également la littérature rabbinique, que les rabbins eux-mêmes en étaient stupéfaits et admiratifs, manifestant à son égard estime et respect. Théologien expert de l'Écriture sainte et des Pères de l'Église, il était en mesure d'illustrer de façon exemplaire la doctrine catholique, également aux chrétiens qui, surtout en Allemagne, avaient adhéré à la Réforme. À travers une présentation claire et douce, il montrait le fondement biblique et patristique de tous les articles de la foi mis en discussion par Martin Luther. Il occupa dans son ordre de nombreuses charges, ministre provincial, ministre général. Les papes l'employèrent également à plusieurs reprises pour des missions diplomatiques auprès de souverains européens. À ce titre, son action pour la paix occupa une partie de sa vie. Il fut envoyé, entre autres, auprès de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui commandait alors les forces catholiques contre les Turcs. Et le pape disait de lui à cette époque, « Ce capucin, animateur spirituel, vaut une armée entière. » Il mourra d'ailleurs au cours d'une mission auprès du roi du Portugal, à Lisbonne, en 1619. Mais Saint Laurent n'est pas seulement un homme de raison, de science ou de diplomatie. Il est avant tout un homme de foi. Et Benoît XVI rend ce témoignage à son sujet. Parmi tant de travaux, Laurent cultiva une vie spirituelle d'une ferveur exceptionnelle, consacrant beaucoup de temps à la prière et de manière particulière à la célébration de la messe, qu'il prolongeait souvent pendant des heures, absorbé et ému par le mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. En conclusion, disons donc la réforme de Luther et l'expansion du protestantisme ont été rendues possibles par l'état assez désastreux dans lequel se trouvait l'Église. Luther a voulu être un réformateur, et il est parfois appelé ainsi, le réformateur. Cependant, comment réforme-t-on l'Église ? Lors des Journées mondiales de la jeunesse à Cologne, donc précisément en Allemagne, le pays de Luther et le pays où il est appelé le réformateur, Benoît XVI, avec beaucoup d'audace, avait dit aux jeunes « Dans les vicissitudes de l'histoire, ce sont les saints qui ont été les véritables réformateurs et qui bien souvent ont fait sortir l'histoire des vallées obscures dans lesquelles elle court toujours le risque de s'enfoncer à nouveau. Les saints, avons-nous dit, sont les vrais réformateurs. Je voudrais maintenant l'exprimer de manière plus radicale encore. C'est seulement des saints, c'est seulement de Dieu que vient la véritable révolution, le changement décisif du monde. » Luther, sa vie le montre, hélas, ne fut pas un saint. Si certaines des questions qu'il a posées, avec parfois plus d'insolence que d'amour filial à l'égard de l'Église, si certaines des questions qu'il a posées étaient pour partie justes, il n'a pas, comme d'autres le feront plus tard, apporté la réponse essentielle, l'exemple de la sainteté qui seul rend possible une véritable réforme. Dans le siècle qui suivra, après le Concile de Trente, l'Église aura la joie de voir fleurir une moisson de saints qui lui apporteront la vraie réforme dont effectivement elle avait besoin. Et parmi ces saints, nos trois docteurs. Mentionnons donc Saint Ignace de Loyola, Saint Jean d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Charles Borromée, Saint Jean de la Croix, Saint Philippe Néri, Saint Pierre Canisius, Saint Laurent de Brindisi, Saint Robert Bellarmin, Saint François de Sales et bien d'autres encore. Cette vague extraordinaire de sainteté renouvellera profondément l'Église de ce temps. Nous vivons également un temps difficile dans l'Église aujourd'hui et beaucoup sont tentés de réagir par une forme de révolte. Or, aujourd'hui, comme à l'époque de nos trois saints docteurs, c'est par la sainteté que nous devons réagir, en demeurant dans l'Église et en l'aimant, quoi qu'il en coûte. Voici, pour conclure, quelques extraits d'un texte de Bernanos intitulé « Frère Martin », donc il s'agit de Martin Luther, dans lequel il livre des réflexions qui peuvent être très éclairantes pour nous dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. On finira par ces mots. « Je me méfie, écrit Bernanos, de mon indignation, de ma révolte. L'indignation n'a jamais racheté personne, mais elle a probablement perdu beaucoup d'âmes. Et toutes les bacchanales simoniaques de la Rome du XVIe siècle n'auraient pas été de grand profit pour le diable si elles n'avaient réussi ce coup unique de jeter Luther dans le désespoir et, avec ce moine indomptable, les deux tiers de la douloureuse chrétienté. Luther et les siens ont désespéré de l'Église. Et qui désespère de l'Église, c'est curieux, risque tôt ou tard de désespérer de l'homme. À ce point de vue, le protestantisme m'apparaît comme un compromis avec le désespoir. On ne réforme l'Église qu'en souffrant pour elle. On ne réforme l'Église visible qu'en souffrant pour l'Église invisible. On ne réforme les vices de l'Église qu'en prodiguant l'exemple de ses vertus les plus héroïques. Il est possible que saint François d'Assise n'ait pas été moins révolté que Luther par la débauche et la simonie des prélats. Il est même certain qu'il en a plus cruellement souffert, car sa nature était bien différente de celle du moine de Weimar. Mais il n'a pas défié l'iniquité, il n'a pas tenté de lui faire front, il s'est jeté dans la pauvreté, il s'y est enfoncé le plus avant qu'il a pu avec les siens, comme dans la source de toute rémission, de toute pureté. Au lieu d'essayer d'arracher à l'Église les biens mal acquis, il l'a comblé de trésors invisibles, et sous la douce main de ce mendiant, le tas d'or et de luxure s'est mis à fleurir comme une haie d'avril. L'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints.